Мой Даниил, мой Даниил, Gott nicht sorgen, sei was von dein Kindes sind der fremd geworden. Ich gedenke nicht mehr dit Felix. Ich gedenke nicht mehr dit Felix. Ich gedenke nicht mehr dit Felix. Moi Dani.
Comme la neige est tombée un peu sur Toulouse, cela m'a donné envie de vous parler de la Russie et du plus grand poète russe qui s'appelle Anna Akhmatova, qui était un peu l'icône de la souffrance russe, puisqu'elle aura été persécutée toute sa vie durant. Elle a écrit ceci. Tout est prêt pour la mort, et ce qui résiste le mieux sur terre, c'est la tristesse. Mais ce qui restera, c'est la parole souveraine. Ces très belles paroles sont d'Anna Akhmatova, qui, avec Osip Mendelstam, dont je vous parlerai un jour, et aussi de sa grande amie Marina Tsvetaeva, aura été la nouvelle source de la littérature russe du XXe siècle, bien plus que Boris Pasternak, que l'on célèbre actuellement. Elle était donc l'amie de Mendelstam, mais aussi de Joseph Brodsky. Et elle avait écrit « Dans ce monde entièrement chrétien, les véritables poètes sont des juifs. » Elle est à jamais cette parole souveraine qui aura fait taire toutes les voix de l'oppression, les plus criardes, les plus déchaînées contre elle, les plus haineuses.
Shut up!
Voilà, j'ai tenu absolument à vous mettre dans l'atmosphère de la merveilleuse musique qu'est la langue russe. Surtout que cette œuvre s'appelle pour Anna Akhmatova. Elle a été composée par son grand ami Dimitri Shostakovich, lui aussi amoureux fou de Saint-Pétersbourg, et sur un poème de Marina Tsvetaeva. Anna Akhmatova, donc. Elle semble trôner au milieu de nous comme l'image d'une Pietà, avec sa douleur dans ses bras, son sourire là, sa présence intimidante, sa grande beauté hautaine, presque celle d'une statue. D'ailleurs, on ne voit jamais les portraits de sa vieillesse, comme ceux que l'on pourrait montrer, parce qu'il y en a, mais on la représente toujours avec sa belle moisson inaltérable de son visage des années 20. Elle était la beauté même, elle ne pouvait donc se flétrir. Et le temps ne pouvait réaliser ce que les bourreaux eux-mêmes ne purent. C'est une sorte de voix de contralto sur les lettres russes. Elle incarne la douleur et la résistance à la dictature. Si fortement que de son œuvre poétique, on ne connaît en France souvent qu'un seul recueil, le Requiem, composé à la fin des années 30 pour témoigner, avec des millions de petites gens, sur la disparition d'êtres chers, sur l'injustice. Ce texte, passant clandestinement de main en main, sera en fait le réconfort d'une population soumise à un fou sanguinaire. Je parle de Staline. Il ne sera publié officiellement en Russie qu'en 1980, donc il y a moins de 26 ans. Et même après cette période, ces vers auront pris possession de ce psychopathe, de ce petit père tant aimé des peuples et par tous les communistes et affidés. Il sera publié en France très tardivement aussi, en passant par la Suisse, etc. C'était vers les années 57. Son œuvre importante va des poésies antipopulaires et décadentes, comme le disait Yadnov, au renouveau lyrique russe avec les passeurs d'âme, c'était le courant nommé les acmétéistes. Au cœur du siècle, elle est donc là, avec ses œuvres de témoignage sur la douleur du monde. Et elle, cette fille de la très haute bourgeoisie, sera étiquetée renégate, nuisible pour la jeunesse, réactionnaire et totalement morbide par le pouvoir de terreur de Staline. Seule sa renommée la sauvera de la mort et du goulag. Comme le disait le pouvoir soviétique, nous ne pouvons compatir avec une femme qui n'a pas eu l'élégance de mourir à temps. Cette parole est de 1935 et Anna n'avait que 36 ans à l'époque. Vous voyez donc l'ignominie de ces paroles. Anna aura eu beaucoup à souffrir de ces psychopathes voulant le bien des ouvriers et encore plus d'ailleurs sûrement le leur. Elle aura survécu par les mots et elle devint l'étendard des pauvres et des persécutés. Elle, ce qui venait de la haute aristocratie, de la haute bourgeoisie. Elle restera universelle alors que les autres se resteront simplement la boue de l'humanité. Elle a dit cette phrase merveilleuse qui résume toute sa vie. « J'aurais vécu 30 ans sous l'aile de la mort. » Cette musique poignante, c'est la plus belle des symphonies de Dmitri Shostakovich, la 14e. Et c'est d'ailleurs le morceau qui commence, s'appelle De Profondis, il est basé sur un poème Federico Grazia Lorca. J'ai gardé les tous et les mouvements du public parce que c'est un enregistrement introuvable d'abord et émouvant. Il est fait par un grand chef d'orchestre juif qui sera obligé d'ailleurs de s'exiler pour cause d'antisémitisme. C'était Rodolphe Barshaï. Revenons à Anna. Elle est née à Odessa en 1899. Elle mourra d'un infarctus, après plusieurs alertes d'ailleurs, en 1966 dans sa chère ville de Saint-Pétersbourg, ville qui portait alors le nom hideux de Leningrad. Son grand ami Joseph Brodsky, lui-même exilé à New York, par antisémitisme bien sûr, et surtout par parasitisme social, écrira à la mort d'Anna. Je salue les cendres de cette grande dame pour avoir eu ces mots, dormant en terre natale, là où par ton bienfait fut doté de paroles un monde sourd-muet. Parlons des paroles d'Anna, je vais vous lire un poème qui est la troisième élégie des élégies du Nord qui sont quasiment pas connues en France. Troisième élégie. L'époque sévère m'a détourné comme un fleuve vers un autre lit. On m'a changé de vie. Voilà qu'elle coule à présent ailleurs. Je ne connais pas mes propres rives. Oh, combien de spectacles j'ai ratés. Sans moi se lever le rideau, sans moi il retombait. Combien de mes amis je n'ai jamais rencontrés dans ma vie. Combien de silhouettes de cités auraient pu tirer de mes yeux des larmes. Pourtant, il est une ville que je sais et que je trouve en rêve à tâtons. Combien de vers je n'ai pas écrit. Leur cœur secret tout autour de moi rôde. Il se peut qu'un jour, sait-on jamais, ils m'étouffent. Je sais les causes et je sais les fins. La vie après la fin et d'autres choses qu'il ne faut pas pour l'instant évoquer. Et quelle est cette femme qui occupe ma place à moi, cette place unique? Voilà qu'elle a pris mon nom légitime, ne m'ayant laissé qu'un surnom. Que j'ai fait tout ce qu'il était possible de faire. Ma tombe, hélas, ne sera pas la mienne. Et cependant, si je pouvais revenir de loin, jeter un regard sur ma vie présente, je connaîtrais enfin la jalousie. Ce poème a été écrit en 1944. Elle, qu'on appelait la souveraine du verbe et de la dignité, aura traversé bien des épreuves de sa vie, comme une Pietà, voulais-je dire, comme une Madone en douleur portant la mort de son mari, Nikolaï Goulinev, fusillé en 1921 pour déviationnisme. Et elle aura connu aussi la très longue détention en goulag, près de 20 ans, de son fils Lev, arrêté dès 1933, de ses amis exécutés devant elle quasiment, comme aussi Mendelstein, ou traqués, à l'époque du moins, comme Boris Pasternak ou Marina Tsvetaeva. Nul n'osera l'attaquer de front, car grande était son aura et sa faculté à universaliser le malheur, et elle avait un public fervent. Elle traversera les frontières du monde comme des oiseaux migrateurs. Mais il faut savoir qu'il y a eu tant de poèmes détruits, perdus ou non écrits, qui marquent, hélas, une partie de la victoire de tous ces salauds. Cette voix d'au-dessus des goulags doit encore faire son chemin en France, où elle n'est pas connue. Car elle est si enracinée dans la langue russe par sa construction, ses rythmes, sa musique, ses sentiments, qu'elle attend encore des traducteurs, sachant qu'elle en a eu quand même quelques-uns d'exceptionnels, qui pourraient rendre de sa poésie, comme cela doit être rendu, une aveuglante simplicité, une pureté de feu. Il ne faut surtout pas faire des paraphrases sur Anna. Et alors qu'il est mis en avant tant de fausses gloires assassines, je ne citerai pas de nom, alors que pour trouver quelques bribes de poèmes de l'immense Anna Armatova, il faut faire quasiment un long chemin de croix. Il n'y a quasiment rien en France, à part le Requiem. Anna va sortir du silence. Voici un autre extrait musical.
Thank you.
C'était toujours la 14e symphonie de Shostakovich, l'avant-dernier morceau sur un poème de Rainer Maria Rilke qui s'appelle justement La mort du poète. On va un peu évoquer maintenant la personnalité d'Anna Akhmatova. Elle était d'une nature profondément superstitieuse, profondément aux aguets des signes de la vie et du destin. Elle était profondément croyante, orthodoxe. Elle y mettait toute la superstition des vieilles babouchkas. Et en même temps, elle était totalement moderne, femme libérée. Et dans ses relations sociales, dans ses relations sexuelles, dans ses relations avec le monde. Et n'hésitant jamais à proclamer son féminisme et son attachement viscéral à sa liberté et à la liberté. Elle ne pouvait pas vivre une relation amoureuse sans vouloir ensuite la détruire de l'intérieur pour démontrer la vanité de toute relation. Belle, très très belle, et elle le savait. Elle s'en servait pour séduire ses proies. C'était aussi une mangeuse d'hommes. Et toute sa vie, elle tentera de mélanger sa foi orthodoxe étroite et la magie dans les hasards pour décrypter, à partir de ces miroirs-là, de ces amulettes, sa vie et celle des autres. Ainsi, elle était marquée par le fait qu'elle est née le jour de la Saint-Jean, le 23 juin 1899, donc prédestinée à la quête du soleil et de la vie. Mais elle se trompait, comme souvent, et ni paix, ni amour, ni rire ne lui furent abondamment donnés. La douleur était sa plus proche amie à venir. Certains sont voués aux anges ou à la pluie. Elle, dès le départ, était vouée au tragique. Et malgré la grâce souriante de ses premiers poèmes, tout entier centré sur les relations amoureuses, c'est bien de la condition humaine qu'elle devra témoigner. Je vais vous lire maintenant un texte qui est toujours tiré des élégies du Nord, qui s'appelle la 4e élégie. Nos souvenirs connaissent trois périodes. Dans la première, tout est comme hier. L'âme se plaît sous les voûtes bénies, le corps se plaît dans leur ombre propice, le rire vit encore, les larmes coulent, la tache d'encre est encore sur la table. Et ce baiser est comme un saut sur le cœur, unique, inoubliable, baiser d'adieu. Mais cette période n'est pas très longue. Au lieu de voûtes bénies, une maison solitaire dans un lointain faubourg, où il fait froid l'hiver et chaud l'été, où la poussière et l'araignée s'étalent, où les lettres brûlantes en cendres tombent, les portraits s'altèrent en cachette. On y va, comme on va sur les tombes. En rentrant, on se lave les mains, en essuyant une larme fugace, des yeux lassés, avec un lourd soupir. Mais l'horloge tic-tac, les printemps se suivent sans répit, le ciel rosit. Le nom des villes eux-mêmes change et s'en vont les témoins des événements. Qui va pleurer? Qui va se souvenir? Et lentement nous abandonnent les ombres que nous appelons plus. Et dans le retour, nous aurait été effrayant. Soudain éveillé, nous constatons que nous avons oublié jusqu'au chemin de cette maison. Étouffant de honte, nous y courons, mais comme dans tous les rêves, tout a changé. Être, chose, mur, nous sommes étrangers. On nous ignore. Ailleurs, nous sommes ailleurs. Ah, Seigneur Dieu. Puis vient le plus terrible. Nous voyons que nous ne pourrions mettre ce passé dans notre vie présente et qu'il est devenu aussi étranger pour nous que pour notre voisin de palier. Que nous saurions reconnaître nos morts et que ceux dont le sort nous sépara s'en accommode parfaitement et même que tout est pour le mieux. Ce poème est de 1953 et la traduction que j'ai prise dans une collection défunte, hélas, qui s'appelait Orphée, collection de la différence, traduit merveilleusement bien la simplicité extrême des mots. Elle était la fille d'un ingénieur de la marine. Elle passa son enfance à Tchakoye, Selo, alors lieu de résidence de l'aristocratie. Elle va étudier le droit à l'université de Kiev, puis la littérature et l'histoire à Saint-Pétersbourg. Très jeune, elle y fréquente salons et cafés littéraires. Sa beauté fait des ravages. Elle publie des vers dans toutes les revues. Avec Goumilev, qu'elle épousera en 1910 et dont elle se séparera comme avec tous ces hommes, assez tôt, c'est-à-dire en 1916. Elle est l'une des fondatrices de cette nouvelle école russe qui a succédé au symbolisme de Belmont et d'Alexandre Bock. C'est ce qu'on appelait l'école acméiste, c'est-à-dire une école qui voulait, par les frissons de l'âme, rendre la vérité aux mots. Puis elle voyage à plusieurs reprises, en France et en Italie. Elle était née à Anna Adriana Korenko. Et dans sa recherche de signes et de symboles, elle décide de changer de nom. Elle prend le nom de son arrière-grand-père maternel, aussi pour se réoler d'un passé tartare, sanguinaire. Elle voulait être une femme dure. Et aussi, tout simplement, elle pouvait signer avec un triple AAA ses poèmes. Symbole fort pour elle. Donc son enfance, c'était Odessa et la mer Noire qui la marqueront finalement moins que sa vie à Saint-Pétersbourg, qui est sa ville d'adoption. Elle devint, avec Shostakovich, le symbole de cette ville. Loin des domaines de sa famille, de sa richesse, ayant expérimenté la pauvreté après le départ de son père, qui les abandonna sans le sou, elle put quand même rencontrer à même hauteur ses pères, les grands poètes, les grands scientifiques, et affirmer sa liberté, son égalité avec les hommes, même sa domination avec les hommes. Elle gardera en elle les fêlures de la séparation de ses parents. Et elle en imagina après cela l'inéluctable destruction de tout amour avec le temps. Et dans le poème que je vous ai lu, cela transparaît. Je vous ai dit qu'elle était mariée avec Nicolas Gumilev en 1910. Qui était Nicolas Gumilev? C'était quelqu'un qui lui a fait une cour. C'était son ami d'enfance, son ami d'études aussi. Et toute sa vie, pendant cette période, il lui a fait une cour forcenée, menaçant de se tuer bien souvent par amour pour elle. Alors par lassitude, parce qu'elle ne l'aimait pas, elle l'épousa. Ce qui lui permit d'être admise dans tous les cercles littéraires. Gumilev était un poète reconnu. Et la très forte personnalité d'Anna, d'ailleurs plus forte que celle de son mari, va s'imposer très vite. Son charisme, sa séduction, firent bien plus que ses poèmes d'ailleurs. Puis, sa tentation de la vie brillante, le peu d'intérêt qu'elle portait à son couple aussi, la mena dans de nombreux voyages, dont un à Paris, où elle fut plus que très proche, je ne dirais pas plus, avec Modigliani, qui a réalisé 16 portraits. On n'en connaît plus qu'un. Et donc, les initiations d'Anna se feront par les paysages et les rencontres. En 1912, quelque chose change en elle. Elle n'est plus cette jeune fille douée de tous les dons, protégée des dieux. Elle devient une autre femme, moins incline au brillant des choses. Son fils unique, Lev, né en 1912. Et c'est là qu'elle va profondément découvrir, elle va d'ailleurs en faire un peu son fond de commerce, Pushkin. Et elle se croyait sincèrement une réincarnation de Pushkin. Elle va aussi connaître Bielli, Bloch, dont je vous ai parlé, Balmont et de bien d'autres. Et elle voudra, avec d'autres, dépasser le symbolisme russe. Et elle va se joindre pour finalement être le porte-drapeau des écrivains de sa génération, qui était de enfin casser la perfection formelle des poésies et aller vers le réel. Mais le réel pour elle, c'était pas celui de Mayakovsky, c'est-à-dire c'était pas la vénération des outils du futurisme. C'était pas non plus le mysticisme de l'acte créateur, mais c'était dans la croyance absolue en la puissance de la parole et de la force du verbe. Je vous ai cité ce qu'elle disait, que seul ce qui restera est la parole souveraine. Sa personnalité est donc faite de domination et aussi de reconnaissance. Elle devient, facile à comprendre maintenant, hein, où la poésie ne représente plus grand-chose, surtout en France, mais toujours beaucoup en Russie. Elle devient vénérée, célébrée, imitée, lue par toute une jeunesse. Elle ne pouvait comprendre la vie qu'en étant en fait la louve alpha, de sa propre vie et de ses proches, c'est-à-dire la dominante. Là, on tient une des clés de la psychologie d'Anna. Ce besoin de déification par le verbe, le vertige qu'elle avait de la domination, le besoin d'être une grande prêtresse des choses, que ce soit l'amour ou la douleur. Elle se voulait chef de meute d'une troupe d'hommes valeureux. Et aucun lien ne pouvait l'en dissuader. Pas plus l'amour qu'une autre chose. Et surtout pas ceux du mariage, parce qu'elle est allée de divorce en remariage, aussi nombreux que 20. Elle a voulu expérimenter cela. À ses problèmes d'amour et de liberté, de tension et de séduction, il suffit d'ajouter l'atroce impact de la Première Guerre mondiale, de sa boucherie immense, pour comprendre l'évolution d'Anna vers sa nature tragique, surtout que la révolution de 1917, avec toutes ses atrocités, va également la pousser à expérimenter cette douleur-là. Elle dit par exemple ceci, « Dans la chambre du poète Andisras, où veillent tour à tour la terreur et la muse, vient une nuit qui ne connaît pas l'aurore. Pourquoi gâtez-vous mon eau même? Mêlez-vous de terre mon pain? Pourquoi ma liberté suprême se voit transformée en pantin? Parce que je reste fidèle à mon pauvre et triste pays, et que je n'ai pas ri, cruel du sort amer de mes amis? Ainsi soit-il. Bourreau, potence, il n'est point de poète sans eux, à nous de faire pénitence, d'aller en cortège de gueux. Non, ce n'est pas moi, c'est une autre qui souffre. Je n'aurais pas pu souffrir ainsi. Tout ce qui s'est passé, qu'un drap noir le recouvre, et qu'on emporte les lanternes, c'est la nuit. » Ce poème s'appelle « La femme de Lot ». La révolution bolchévique la surprend, comme bien d'autres, alors qu'elle était en pleine ascension littéraire, et qu'elle était reconnue comme la plus grande poétesse de son temps. Cette révolution fut la fin de son monde qu'elle avait connu, et aussi, hélas, la fin de ses amis. Elle, la croyante, la religieuse, ne pouvait absolument pas comprendre ce matérialisme purificateur par le sang. Jamais elle ne s'abaissa, sauf une fois quand même, où elle écrira, comme tous les autres lèche-bottes de cette époque, dont le premier en titre fut Pasternak, une ode à Staline, mais c'était pour libérer son fils. Ce qui d'ailleurs marcha, mais quelques mois après, il fut remis en prison. Donc jamais elle ne se compromit avec ce régime qui très vite veut basculer dans la terreur. Cette terreur qu'il prétendait abattre. Mais elle ne fura pas. Elle était profondément patriote, comme on l'a dit quelques vers que j'osais lire. Elle préféra rester cette exilée de l'intérieur, une sorte de statue du commandeur qui raillait ses persécuteurs. Après le divorce avec Goumilev, elle se remarie en 1918 avec un orientaliste, Tchilaïko. Elle a vite vu la vacuité du personnage et elle se sépare en 1921 de ce deuxième mari. 1921, c'est l'année même où son mari, son premier mari, dont elle avait divorcé, est accusé d'avoir participé à un complot monarchiste, comme s'il pouvait y avoir des complots à cette époque. Et il sera arrêté, fusillé. Goumilev fut quand même son Pygmalion. Et elle-même, sur ordre de Staline, en 1923, est condamnée au silence. Alors, elle va s'installer en 1925 à Tarkovskoïe-Selo, puis à Leningrad. On fait courir le bruit que le régime adorait cette poétesse-là, mais brusquement, on n'avait plus d'inspiration, elle était tarie, elle était vide. Donc, elle ne pouvait plus produire de vers, et hélas, on ne pouvait plus les publier. Ce qui est, évidemment, un mensonge honteux. En 1934, elle fait un voyage à Moscou, alors que Mendelstam est arrêté pour la première fois. En 1935, c'est le tour de son fils, Lev Goumilev, d'être arrêté. Et je vous ai dit que grâce à une lettre à Staline, il va être libéré, mais il sera réarrêté en 1938 et va passer 20 ans dans les bagnes. Mendelstam meurt dans un camp de concentration, le 27 décembre 1938. Mais sa renommée est quand même importante. Maintenant qu'on sait qu'elle ne peut pas nuire parce qu'elle ne peut pas écrire, on va se servir de sa gloire passée pour la mettre en exergue. On avait besoin d'alibi. Alors, en 1940, elle devient membre de l'Union des écrivains soviétiques, ce qui permettait d'avoir un petit salaire et une datcha. Bien sûr, elle va être radiée en 1946. Et en 1949, son fils Lev est arrêté pour la troisième fois et ne sera libéré qu'à la mort de Staline en 1956. Et elle-même, toujours maudite, ne sera réhabilitée que bien après la mort de Staline. Elle qui avait connu la ferveur des gens, ferveur jusqu'à l'hystérie, c'était une rockstar à cette époque, c'était une diva, jusqu'en 1925, et confinée dans le silence. Car le régime avait vite compris qu'il ne pourrait jamais la récupérer, et qu'elle serait toujours cette émigrée intérieure dans la plus totale et irréfutable opposition. Alors commencent à pleuvoir les interdits, les persécutions. Rendue muette, elle devient maintenant la bête à abattre quand Staline prendra totalement le pouvoir de cet immense appareil. Elle dira de ce temps-là, c'était au temps où seuls les morts souriaient. Elle était plus que réservée, même hostile, à l'égard de l'inspiration idéologique de la Révolution. Elle se distingue pourtant de tous les écrivains de sa tendance, par exemple Marina Tsvetaeva, en refusant d'émigrer ou même de s'opposer politiquement au nouveau régime. Elle avait le sentiment tragique de l'écoulement du monde et une confiance inébranlable dans les destinées de la nouvelle Russie, qui pour elle se dégagerait un jour de l'obscurantisme bolchevique. Et ses recueils qu'elle a publiés au lendemain de la guerre civile en témoignent. Et la poétesse se montrera extrêmement prolifique, poésie, critique, surtout sur Pouchkine, histoire littéraire, toujours sur Pouchkine. Mais elle publiera très peu. Elle aura également toute une phase de poème patriotique. C'était en la guerre 41-45, où, comme les habitants de Leningrad, de Saint-Pétersbourg, donc, devait célébrer, mais elle l'a célébré parce que c'est pas Staline qu'elle célébrait, c'était les pierres de Saint-Pétersbourg. Elle a écrit ainsi deux poèmes célèbres qui s'appellent Le Serment et Le Courage. Je vous ai dit qu'elle a été radiée de l'Union des écrivains soviétiques, c'est-à-dire condamnée à la pauvreté absolue. Il faut quand même que vous sachiez pourquoi. Elle a été condamnée pour érotisme, mysticisme et indifférence politique. Et Yadnov, qui était l'idéologue sanguinaire, que notre grand poète Aragon aimait tant, puisqu'il a fait des poèmes en l'honneur de Yadnov, et qui ira lui-même son texte d'exécution. Qu'est-ce que la poésie d'Anna Armatova ? C'est la poésie d'une grande dame hystérique, ballottée entre le boudoir et l'oratoire. L'essentiel chez elle, ce sont les motifs érotiques, entremêlés des motifs de la tristesse, du spleen, de la mort, de la mystique, de la fatalité. Nonne ou fornicatrice, ou plutôt nonne et fornicatrice, chez qui la fornication se mêle à la prière. Voici ce portrait donc fait par Yadnov. Elle est réhabilitée un tout petit peu, en 1955. C'est là qu'elle compose deux de ses œuvres les plus célèbres, qui sont tous dédiés à la mémoire des victimes de la répression stalinienne. Poème sans héros, et surtout le célèbre Requiem. Ce poème, qui ne sera pas publié en Russie quand même, il ne faut pas exagérer, Khrouchtchev veille au grain quand même, il va être transmis oralement jusqu'en 1962, transmis en Occident par des voix secrètes comme des samizdats, et finalement, en 1962, elle peut l'écrire, parce que sa poésie, j'y reviendrai, pouvait être transmise oralement et par mémoire. Donc elle a connu l'arrestation de ses maris, les déportations, l'interdiction d'écrire, de publier, le flicage permanent. On a tout employé contre elle. Et de cette période, il nous reste que quelques poèmes appris par cœur par ses amis. Et par contre, il y en a des centaines et des centaines qui sont perdues ou brûlées. Comment se faisait la transmission de ces poèmes? Il y avait 7 ou 11 apôtres, elle appelait ainsi ses amis, qui formaient la seule chaîne de mémoire. Ils avaient le droit d'apprendre par cœur le papier griffonné, qui, quand Anna était sûre qu'ils avaient en mémoire, brûlait. Il fallait laisser aucune trace. Elle étouffait sous le poids de ses vers non publiés, de toutes ses œuvres avortées, comme si c'était ses enfants à elle, des enfants morts-nés. On dirait qu'elle avait inconsciemment attendu, espéré sans doute même cette épreuve christique. L'apocalypse avait fondu sur elle, et elle prenait son envol au fronton de la résistance à l'horreur. Dans les brèves accalmies qu'elle aura connues, de fugaces éditions, ceci n'aura pas empêché son exécution littéraire, qui l'aura jeté au chien, où la Pravda l'a traité, je vous ai dit, quasiment de putain, hein. Et donc au vide des lecteurs, on interdisait sa lecture. Le plus étonnant, quand même, c'est que cette malédiction sur elle va durer après la mort de Staline, tant la haine des communistes contre elle sera forte. Et il ne faut pas oublier, même maintenant, une époque qui, prenant le relais des nazis, où le simple fait de publier de la poésie peut vous entraîner en prison, peut entraîner la déportation et conduit sûrement à la mort. Pour un seul mot, on était tué, comme le fut Ossip Mandelstam. Et jamais elle ne céda. Et alors que sa santé va s'altérer, elle va aller de crise cardiaque en crise cardiaque, comme si elle attendait une délivrance. En 1964, elle put sortir enfin de son pays, ce qu'elle n'avait pas fait depuis plus de 50 ans. Et on peut constater que, bien qu'elle soit morte le 5 mars 1966, plus de 10 ans après Staline, que son fantôme continue à terroriser tous les Poutines et tous les autres. Et rares sont les publications. C'est en fait sa reconnaissance par l'Occident qui lui a redonné la ferveur de la jeunesse russe, qui en a fait son poète préféré. Ses rééditions vers 90-2000 sont tirées immédiatement 500 000 exemplaires et on est obligé de faire des rééditions. Je vous parle de maintenant. Ceci, il semble qu'elle aura voulu aussi. Elle se savait le poète préféré. Elle savait qu'elle connaîtrait la résurrection après les époques et les épreuves terrestres. Ainsi était-elle la belle croyante, Anna Akhmatova, qui écrivait « L'or se couvre de rouille, l'acier tombe en poussière, le marbre s'effrite. Tout est prêt pour la mort. Ce qui résiste le mieux sur terre, c'est la tristesse. Et ce qui restera, c'est la parole souveraine. » C'est de là que j'avais tiré le préambule. Du langage poétique d'Anna Akhmatova, on va juste dire un ou deux mots, et on voit qu'elle s'est très vite dégagée des entrelacs un peu surannés du symbolisme et même de l'agmentéisme. Elle s'est construite une langue poétique qui lui appartient à elle seule, basée sur la souplesse des rythmes et des rimes très riches. Rimes qu'il est impossible de rendre en français d'ailleurs. Avec un vocabulaire limpide et simple. Construction de sa grammaire poétique est désarmante de transparence. On dirait qu'il y a de l'eau, on peut voir au travers. Ses poèmes étaient en fait fondés sur sa propre respiration. Et donc, toute cette transcendance qu'elle a en elle, elle le fait passer dans l'ample musique de ses mots. Elle refuse tous les artifices du métier de poète que tant d'autres emploieront. Essénine, le grand Essénine aussi, Bloch et surtout le petit tâcheron nommé Mayakovsky. Sa voix reste unique, originale et envoûtante. Elle disait que sa poésie ne pouvait être traduite, car tout entière enracinée dans le terreau de la langue russe et de sa mémoire. Elle savait ce dont elle parlait, elle-même traductrice émérite, puisqu'elle a gagné sa survie grâce à ses traductions. Chacun de ses mots est translucide en russe, il est moins en français. Nul ne peut et ne pourra finalement reproduire le long fleuve de la respiration d'Anna Akhmatova. Chacun de ces mots va à la mer. Comment apprivoiser l'eau et la mer? Comment traduire Akhona Akhmatova. Fin de la 14e, ça s'appelait d'ailleurs morceau final sur un poème de Rilke qui dit la chose suivante: quand nous croyons au cœur de la vie, la mort ose rire en nous. Donc Anna s'était drapée dans les mots de la poésie, elle en fit son maquis, sa terre de résistance. Elle aura été la recluse, la beauté irradiante qui aurait été mise en cage par les bourreaux staliniens. Elle aurait été interdite de publication, traquée par la police. Sa poésie, qui est à peine redécouverte, nous saisit par son irradiation. Voilà ce qu'elle dit pour résister à l'extermination folle. Mon Dieu, nous régnerons avec sagesse, bâtissant des églises au bord de la mer et aussi des phares élevés. Nous sauvegardons l'eau et la terre et nous ferons du mal à personne. Je ne pense pas qu'on ait besoin de Dieu pour réaliser cette prophétie, mais nous avons sûrement besoin d'Anna Akhmatova, belle et simple, qui a ouvert son âme au monde tragique et poétique. Elle parle au nom des dizaines de milliers, de millions de voix étouffées et brisées, qui, grâce à elle, traversent maintenant l'espace et le temps pour parvenir jusqu'à nous, et qui vont résonner longtemps encore dans la mémoire de la Russie. Anna Akhmatova restera jamais cette voix dans les ténèbres, qui aura fait pâlir les ténèbres, justement. Elle aura fait de sa poésie une résistance. Je vais vous donc vous quitter en vous lisant juste de petits extraits du Requiem, son œuvre la plus célèbre, dont l'exergue est la suivante. Non, ce n'est pas sous un ciel étranger, à l'abri des ailes étrangères, que j'étais. J'étais au milieu de mon peuple, là où, pour son malheur, mon peuple était. Et en guise de préface, elle dit ceci. Dans les années terribles des années Yadnov, j'ai passé 17 mois à faire la queue devant les prisons de Leningrad. Un jour, quelqu'un a cru m'y reconnaître. Alors une femme aux lèvres bleuâtres qui était derrière moi, qui faisait la queue, et à qui mon nom ne disait rien, sortit de cette torpeur qui nous était toute coutumière et me demanda à l'oreille. Là-bas, on ne pouvait parler qu'en chuchotant. « Et cela, pourriez-vous le décrire ?» Je répondis, « Oui, je le peux. » Alors, une espèce de sourire glissa sur ce qui avait été jadis son visage. Juste une introduction, et on trouve le Requiem quasiment en livre de poche, donc c'est pas la peine que je vous en lise trop. Voilà ce qu'elle dit en introduction. « Il fut un temps où rien ne souriait, que le cadavre heureux de son repos, comme un vain appendice se balançait Leningrad près de ses prisons, et quand, fou de souffrance, partaient des régiments de condamnés, les locomotives leur chantaient le bref chant d'adieu, les étoiles de la mort planaient sur nous, la Russie innocente se tordait de douleur sous les bottes ensanglantées, sous les pneus des noirs fourgons cellulaires. Chers auditeurs, je vais vous dire... Bonsoir, au revoir avec ces poèmes-là. Je vais vous quitter en musique de quelqu'un qui vit toujours, qui s'appelle Sofia Gubaidulina et qui porte une vénération à Anna Akhmatova. Cette musique s'appelle In Croce. Au revoir.